Décryptage. Anne Corpet.
À la mi-mai, Kim Jong-un est apparu pour la première fois devant les Nord-Coréens avec un masque sur le visage. Le régime affirmait jusque-là avoir réussi à cantonner le coronavirus hors de ses frontières, mais il a dû l'admettre, le Covid est bien arrivé dans le pays. Cet aveu survient alors que, selon les services de renseignement sud-coréens, la Corée du Nord a terminé ses préparatifs en vue de la réalisation d'un nouvel essai nucléaire. Les services de sécurité américains s'attendaient même à une démonstration de force pendant le séjour de Joe Biden dans la région. Pour l'instant, Pyongyang s'est abstenu. L'urgence épidémique réduit-elle les risques d'une provocation majeure de la part de la Corée du Nord? Les autorités nord-coréennes vont-elles se résoudre à appeler à l'aide pour juguler l'épidémie? Comment la crise sanitaire peut-elle influer sur la politique nord-coréenne? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans Décryptage. Et avec nous pour évoquer la situation en Corée du Nord, en ligne Marianne Perron-Doise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur sur l'Asie à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et chargé de cours à Sciences Po Paris. Merci d'être en ligne avec nous. Nous sommes également au téléphone avec Barthélémy Courmont. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université catholique de Lille et directeur de recherche à l'IRIS sur l'Asie-Pacifique. Merci également d'être là avec nous. Alors, cette épidémie est le plus grand désastre qui s'abat sur notre pays depuis sa fondation. C'est ce qu'a déclaré le dictateur nord-coréen Marianne Perron-Doise. Le fait qu'il prenne la parole à ce sujet révèle une situation exceptionnellement grave, à votre avis ?
Alors oui, je pense qu'il est difficile à la Corée du Nord de cacher l'énorme difficulté de la situation, puisque finalement, on le sait bien, le virus se propage d'une façon extrêmement rapide et que la population est par définition extrêmement, extrêmement vulnérable et que le système de santé du pays n'est pas en état de faire face. Il y a cette reconnaissance, cet aveu. Mais comme la Corée du Nord est toujours très paradoxale, pour l'instant, elle n'a pas accepté d'aide internationale, même si on croit comprendre que la Chine a déjà pu acheminer des vaccins et certains équipements médicaux.
Oui, il y a eu un aller-retour d'avion cargo, voilà. En effet.
Donc, il y a à la fois cette reconnaissance d'une situation grave avec peut-être, en l'admettant de la part du régime, la recherche de coupables, bien entendu.
Oui, alors justement, dans son allocution, Kim Jong-un a fustigé l'incompétence des cadres. Comment vous interprétez ces propos, Barthélémy Courmont? Il cherche des boucs émissaires?
Alors, en rebondissant sur ce que je viens d'entendre, il est important de noter que la Corée du Nord a changé sa communication avec Kim Jong-un. On se souvient que c'est lui qui, en début d'année, intervient publiquement pour s'excuser, ce qui est rarissime, voire inédit dans l'histoire de ce pays, auprès de la population nord-coréenne pour ne pas avoir pu, transformer ce miracle économique qui est annoncé avec fracas depuis maintenant plusieurs années. Et donc là, on est un petit peu dans la même stratégie de communication en reconnaissant qu'il y a des carences, en reconnaissant que la Corée du Nord n'est tout simplement pas capable seule de faire face à cette pandémie. Et donc il y a effectivement cette communication qui nous invite à considérer deux choses. D'abord, oui, la recherche bien évidemment de coupables, donc on va entre guillemets profiter de cet épisode pour purger un petit peu plus et peut-être renforcer l'autorité de Kim Jong-un au sommet de l'État. Donc il y aura évidemment des coupables qui seront désignés, l'idée étant de montrer que ce n'est pas le régime qui a failli, mais des cadres à l'intérieur du régime. Et puis l'autre aspect important de cette stratégie de communication, eh bien c'est aussi un appel à l'aide internationale, chinoise, vous l'avez mentionné très justement, et pourquoi pas davantage, je pense notamment à la Corée du Sud, on va y revenir, mais les relations sont actuellement très tendues entre les deux pays, et c'est précisément l'opportunité pour Pyongyang de se positionner sur cette question qui n'est pas uniquement sécuritaire, mais qui est aussi une question désormais sanitaire.
Oui, alors Marianne Perrondoise, vous l'évoquiez il y a un instant, le système de santé nord-coréen est dans un mauvais état. Est-ce que la Corée du Nord est proche d'un nouveau désastre humanitaire? Je repense à la famine des années 90 qui avait été absolument dramatique.
Mais écoutez, on peut le craindre en tout état de cause, parce qu'on se souvient que, en fait, n'ayant pas les moyens de lutter contre l'épidémie potentielle, dès 2020, hein, la Corée du Nord avait fermé ses frontières pour pallier à toute contamination possible en provenance de la Chine. Et on se rappelle aussi qu'elle avait renvoyé les diplomates occidentaux, mais aussi les ONG, mais aussi un certain nombre de groupes à vocation humanitaire qui dispensent un soutien de caractère non seulement alimentaire, mais de soins. Je pense aux ONG américaines qui continuaient d'ailleurs des campagnes de vaccination contre la tuberculose, car la population est extrêmement vulnérable et affaiblie. Et donc, on peut imaginer que sans cette aide, sans ce soutien déjà élémentaire depuis 2 ans, alors qu'en fait les frontières ont été fermées, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'acheminement à la fois de biens de consommation en provenance de la Chine, que ce soit par la route avec les camions arrivant de Dandong ou par la voie ferrée, plus j'imagine de médicaments. Et je crois me souvenir qu'il y a moins de quelques mois, alors qu'on mettait en place le système COVAX, la Corée du Nord avait refusé à la fois des vaccins en provenance de Chine et avait déclaré donc à l'OMS, hein, à l'Organisation mondiale de la santé, que d'autres pays étaient dans une situation d'urgence supérieure et avaient davantage besoin du système COVAX que la Corée du Nord. C'est toujours à la fois ce mélange de nationalisme ombrageux et à la fois ce souci de se prévenir, de se prémunir contre toute
ingérence,
voilà, et présence de potentiels éléments étrangers, parce qu'effectivement le système COVAX nécessitait une supervision avec l'arrivée d'éléments de l'OMS.
Et là, Joe Biden, qui est actuellement au Japon, a dit qu'il pouvait aussi fournir des vaccins. Il n'y a pas eu de réponse à cette offre, ni à celle de la Corée du Sud, Barthélémy Courmont, pour l'instant.
Absolument, vous avez raison de le signaler. Dans une des allocutions publiques qu'il a effectuées en compagnie du nouveau président coréen, M. Yoon Suk-yeol, Joe Biden a, comme d'ailleurs son homologue sud-coréen, proposé une aide à la Corée du Nord qui n'y a pas répondu à l'heure actuelle. Alors attention, parce que accepter une aide internationale, ça revient finalement à reconnaître non seulement que se débarrasser des ONG qui faisaient le travail, qui faisaient ce que l'on pouvait faire, notamment dans la lutte contre la tuberculose, ça a été une grave erreur, et c'est une erreur qui incomberait bien évidemment aux dirigeants nord-coréens et pas simplement à des cadres. Et puis c'est aussi reconnaître la faiblesse de ce régime. Rappelons que ce régime repose sur cette ce principe qui s'appelle le Juche, qui est un principe qui peut sembler totalement absurde à bien des égards. Et le Juche, c'est l'autonomie. C'est le fait de ne pas avoir besoin de soutien extérieur. La Corée du Nord serait, en tout cas c'est la fable du régime au pouvoir, capable de subvenir à tous ses besoins alimentaires, mais aussi dans le domaine sanitaire. Et donc bien évidemment, accepter comme ça cette aide proposée par le président américain et son homologue sud-coréen, c'est reconnaître que la Corée du Nord devient tout simplement un État failli. Et Kim Jong-un n'est pas prêt à le faire. C'est donc par derrière qu'on va essayer de trouver un moyen de récupérer une aide avec la menace, une menace à la fois sanitaire, hein, pourquoi pas un exode massif des Sud-Coréens, comme c'était le cas à la fin des années 90 ou au début des années 2000 face à la... face aux problèmes alimentaires à très très grande échelle, et puis pourquoi pas aussi une menace sécuritaire avec, comme on le voit actuellement, cette arme nucléaire à nouveau brandie, des missiles balistiques.
Justement, l'éclatement de cette épidémie intervient dans un climat de, défiance extrême. Et je voulais vous faire écouter ce que déclarait Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, juste avant le départ du président américain pour l'Asie. On écoute Jake Sullivan.
Nos renseignements montrent qu'il existe une réelle possibilité soit d'un test missile balistique intercontinental ou bien d'un test nucléaire, voire même les deux, avant, durant ou après le voyage du président dans la région. Nous nous préparons à toutes les éventualités, dont la possibilité qu'une telle provocation ait lieu alors que nous sommes en Corée du Sud ou au Japon.
Alors, pour l'instant, la tournée de Joe Biden se déroule sans interférence majeure de la part des Nord-Coréens. Marianne Perrondoise, est-ce que l'urgence épidémique, finalement, réduit les risques d'une provocation majeure de Pyongyang ?
Non, mais je pense que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours ce souci hein, de maintenir une capacité nucléaire, une capacité balistique et de poursuivre les essais d'armes, comme ça a été fait depuis le début de l'année, puisqu'on a bien vu la reprise des tirs de missiles balistiques. Et donc, Jack Sullivan parle de l'éventualité d'un nouveau tir de missile balistique intercontinental. Il y en a déjà eu un en mars avec le 77. Et par ailleurs, effectivement, les services de renseignement ont pu noter un certain niveau d'activité autour des principaux sites de tir nucléaire, ce qui correspond de toute façon à l'agenda de la poursuite des essais du régime, puisque depuis l'échec des pourparlers, en tout cas du dialogue avec le président Trump, il y avait une mise entre parenthèses et une absence de contact avec aucune perspective de reprendre un dialogue quelconque, que ce soit avec la Corée du Sud ou les États-Unis. Donc il y avait toujours cette logique de conserver cette dissuasion nucléaire comme un levier potentiel et donc continuer à faire des essais. Donc je pense que ça reste inscrit de toute façon profondément dans la logique du régime. Alors effectivement, s'y rajoute peut-être un souci de ne pas se montrer trop débordé, trop affaibli par l'aveu public, l'aveu international de cette crise épidémique.
Ça veut dire que ça peut rendre Kim Jong-un encore plus belligérant en quelque sorte ?
Non, moi je ne crois pas à l'hypothèse de la fuite en avant avec, je dirais, la succession d'essais pour faire oublier les défaillances internes. Je pense qu'il y a quand même le souci de gérer une situation humanitaire très grave qui s'annonce de la part du régime, qui sait d'emblée qu'il ne pourra pas y faire face sans le soutien de ses habituels supports et alliés implicites, que soient la Chine et la Russie. Et je pense que la Chine elle-même, qui est très débordée, on voit l'épisode, on voit la façon dont elle-même a recours à la stratégie de confinement que cherchera à mettre en place la Corée du Nord, combien la Chine elle-même est dépassée et elle ne va pas laisser encourager une crise, je mets nucléaire, balistique, nucléaro-balistique, entre guillemets, à sa frontière. Donc je pense que quand même il y a des éléments qui devraient temporiser
les appétits belligérants du leader nord-coréen. Cela dit, dimanche à Séoul, le président américain et son homologue sud-coréen ont évoqué une intensification des exercices militaires conjoints. Barthélémy Courmont, ça ne risque pas de mettre en colère Pyongyang ?
Alors justement, c'est ce que je voulais ajouter au propos très juste que vient de nous donner Marianne Perrondoise. Hein. Il y a des provocations côté nord-coréen, mais il y a aussi la perception de provocation, à tort ou à raison, du côté sud-coréen et américain. On a d'abord un changement d'équipe à Séoul avec la victoire de Moon Suk-yeol, c'était en mars dernier. Hein, et la
composition un dirigeant conservateur qui marque une rupture avec la politique d'apaisement. De son prédécesseur.
Absolument, c'est un conservateur qui a encore annoncé aujourd'hui que la politique de main tendue vis-à-vis de la Corée du Nord s'est terminée. Donc il enterre définitivement, et c'est la première fois d'ailleurs qu'il le fait avec une telle force, la politique de son prédécesseur Moon Jae-in qui précisément avait cherché à pacifier la péninsule. Et puis, côté américain, il n'y a pas une rupture fondamentale sur ce sujet entre Joe Biden et Donald Trump avant lui, mais malgré tout, les efforts de l'administration Trump visant à orchestrer ces rencontres historiques, certes infructueuses, mais historiques, entre le président américain et le dirigeant nord-coréen, ne sont pas reprises par le président actuel, qui, au contraire, estime que la Corée du Nord doit, avant toute chose, montrer des gages pour pouvoir être une nouvelle fois à la table des négociations. Donc Pyongyang se sent d'une certaine manière menacé, se sent dans une situation difficile qui vient s'ajouter à ce contexte sanitaire extrêmement préoccupant que rencontre le pays aujourd'hui. Donc voilà, il y a eu effectivement des signes côté nord-coréen au cours des dernières semaines, et Marianne l'a dit très justement, mais il y a aussi la perception que les interlocuteurs ont changé et qu'on ne peut plus être sur une ligne, je dirais, optimiste, comme ce fut le cas il y a 3 ou 4 ans.
Et puis, il y a aussi la guerre en Ukraine qui a rapproché, semble-t-il, Pyongyang de Moscou. En tout cas, l'agression russe en Ukraine, est-ce qu'elle n'a pas conforté les dirigeants nord-coréens dans leur conviction qu'un pays sans armes de dissuasion est vulnérable, Marianne Perrondoise?
Tout à fait, c'est-à-dire que effectivement, vous le rappeliez, Pyongyang n'a pas suivi donc la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies condamnant l'agression russe. Donc elle s'est retrouvée aux côtés de la Biélorussie, de l'Érythrée, si je me souviens bien, et de la Syrie. Effectivement, le régime a tendance à penser que seule la dissuasion nucléaire constitue son assurance vie, et que cette idée d'une dénucléarisation totale vérifiable et définitive, hein, c'est un petit peu ce sur quoi insistent toujours les négociateurs américains. C'est quelque chose qui n'est absolument pas envisageable pour le régime, qui ne laissera jamais son armement nucléaire, sauf à se montrer tout à fait démuni dans un environnement où, comme l'a fait remarquer Barthélémy, il y a une alliance américaine avec la Corée du Sud et le Japon qui tend à se renforcer contre la Chine.
Oui, donc et pour la Chine comme pour la Russie, la priorité est moins aussi la dénucléarisation de la Corée du Nord qu'on a l'impression que le renforcement de liens avec Pyongyang. On a l'impression que pour la première fois depuis des décennies, la Corée du Nord fait partie d'une forme de bloc international, Barthélémy Courmont.
Alors, je n'irai peut-être pas jusque-là. La Corée du Nord reste un État extrêmement isolé. On l'a dit tout à l'heure, tous les problèmes qui viennent de Corée du Nord embarrassent Pékin plus qu'autre chose. C'est le cas de la crise sanitaire, c'est aussi le cas des gesticulations de ce régime, et notamment des essais nucléaires ou balistiques. Donc, la Corée du Nord n'est pas... je dirais, dans une situation de proxy de la Chine. Hein. Ce n'est pas un pion de Pékin dans la région. Cependant, les relations sont importantes, elles sont même essentielles pour le régime, et on va voir d'ailleurs dans les prochaines semaines, avec cette aide chinoise de facto qui va se mettre en place, la dépendance vis-à-vis de la Chine se renforcer et s'étendre à ce domaine sanitaire. Donc oui, la Corée du Nord est un satellite de facto de la Chine, mais ce n'est pas pour autant un État allié, un État proche, qui dépendrait d'une certaine manière du bon vouloir de Pékin. Et puis c'est un petit peu la même chose vis-à-vis de la Russie. Hein. Le positionnement de Pyongyang singulier sur ce vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, il est important, certes, mais il faut aussi rappeler dans le même temps qu'un nombre très limité d'États, et notamment d'États asiatiques, se sont engagés dans la mise en place de sanctions contre la Russie. Et la Corée du Nord fait évidemment partie de ces nombreux États qui ne sanctionnent pas l'agression russe.
Merci Barthélémy Courmont, professeur à l'Université catholique de Lille et directeur de recherche à l'IRIS. Merci Marianne Perrondoise, chercheur sur l'Asie à l'IRSEM. Merci à David Brockway à la réalisation, et à Sigrid Azerwal.